en tout cas une proposition et une présentation effectivement qui nous décale les uns et les autres. C'est ça que nous attendions de votre part.
Merci beaucoup de m'avoir proposé de traiter ce thème. Alors je préfère vous prévenir tout de suite que ce sera un peu en décalage avec justement peut-être toutes les visions très prospectives sur cet enfant numérique et toutes les nouvelles compétences qu'il développe dans cet univers, puisque j'en suis restée vraiment au thème proposé, c'est cet enfant consommateur, qui est-ce ? Est-ce qu'on peut comprendre comment s'est construite cette figure ? Donc je vais repartir un peu en arrière, mais je pense qu'il faut faire cet effort-là pour comprendre aussi ce qui se joue dans la relation entre le numérique et l'enfant aujourd'hui, et ne pas oublier que au milieu de ce terme enfant et numérique, il y a un autre terme qui est effectivement le champ de la consommation, et qu'on sait bien que l'enfant acquiert des compétences numériques peut-être parfois beaucoup plus rapidement sur le marché qu'à l'école, pour être un petit peu provocatrice dès le début. Alors je vais remonter assez loin, mais assez vite. Je ne veux pas vous ennuyer avec tout ça. Je n'ai pas spécialement développé, parce que je pense que ça va être fait au cours de la journée, effectivement, toutes les implications. Il y en a quelques-unes qui ont déjà été évoquées et que je reprends à certains endroits de ma présentation. Voilà, c'est une invitation à remonter un peu dans le temps pour essayer de comprendre aussi que ce que vit l'enfant aujourd'hui dans sa relation numérique, ça vient d'assez loin et qu'il faut s'interroger sur un certain nombre de structures sous-jacentes qui redéfinissent même les contours de l'enfance, qui redéfinissent les contours de la relation de l'enfant à l'adulte, etc. Alors, sûrement vous connaissez beaucoup d'éléments de ce que je vais présenter. Alors juste pour dire ce qu'on fait nous, simplement pour présenter, on est le seul master qui travaille sur le marketing jeunesse, on va dire, en France, qui essaye de former des spécialistes du marketing jeunesse pour peut-être envisager une autre façon de faire du marketing ou de pratiquer un marketing un peu plus responsable, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les enjeux de RSE sont quand même extrêmement prégnants dans ce type de secteur. On a donc 6 fédérations ou 6 organismes nationaux qui nous soutiennent, avec lesquels on interagit, on organise des journées, on essaye d'échanger à des rythmes plus ou moins fréquents et rapides. Et puis quelques exemples d'entreprises où travaillent les diplômés. Évidemment, vous voyez qu'on est en plein, dans beaucoup de cas, sur évidemment des activités numériques, et en particulier ce marketing digital qui est pratiqué aujourd'hui pour s'adresser aux cibles jeunesse et puis aussi les fidéliser sur un certain nombre de prestations. Alors, très rapidement, je vais essayer d'être très rapide. L'enfant consommateur, c'est une réalité historique. On a parfois un petit peu tendance à l'oublier, nous, en sciences de gestion, peut-être qu'ici, beaucoup moins. Mais en tout cas, en sciences de gestion, on a un peu le tropisme, vous savez, de l'amnésie. Tout est nouveau, tout est changement. Tout... Et en fait, il n'y a rien de très nouveau. On va voir qu'effectivement, l'enfant est une cible commerciale depuis très, très longtemps. L'enfant est aussi une construction sociale, et je ne vais rien vous apprendre ici là-dessus, où, justement, un des acteurs clés, c'est les acteurs du marché sont... lourdement intervenu sur des longues périodes pour redéfinir finalement la relation de l'enfant à l'espace marchand. Et puis surtout, c'est un être en devenir. Et donc ça va aussi imposer un certain nombre de questions nouvelles qui vont particulièrement prendre une importance singulière dans l'univers numérique. Alors très rapidement, si on reprend une perspective un peu historique, l'enfant a surtout été un travail, alors je passe sur de nombreux travaux évidemment avant la deuxième révolution industrielle, mais déjà on voit des traces très claires à partir de cette période-là. L'enfant était surtout un travailleur. Dans les manufactures de jouets, on a eu la possibilité d'avoir accès aux archives de la Fédération Jouets Puriculture, qui s'est créée en 1891. Et donc, tout de suite, elle a été confrontée, par exemple, à la loi sur le travail des enfants, interdiction du travail de nuit des enfants et des femmes. Donc, ça les a conduits à réorganiser tout leur système de production pour pouvoir répondre aux commandes des grands magasins de l'époque. Et puis, en parallèle, aux États-Unis, la Progressive Era, où vous voyez Il y a beaucoup d'enfants travailleurs aussi, avec justement tout l'enjeu éducatif de la Progressive Era, qui est de faire en sorte que ces jeunes travailleurs, ces adolescents, deviennent aussi, soient capables de gérer leur budget, deviennent aussi des consommateurs avertis. Et donc, on voit bien que là se joue quelque chose d'important entre le fait d'être dans cet univers marchand, mais en tant que travailleur, et de changer progressivement de statut. Alors, vous connaissez bien sûr catalogue des traînes, hein, donc ça aussi, même période, l'enfant, la célébration de l'enfance prend particulièrement place au moment des étrennes, et puis petit à petit, à partir des années, après la Deuxième Guerre mondiale, en particulier en France en tout cas, la figure du Père Noël s'impose petit à petit comme un élément clé, un médiateur clé de cette célébration de l'enfance. On voit aussi aux États-Unis des travaux très intéressants qui ont été menés par notre collègue Daniel Thomas Cooks, qui a publié un livre en 2004 qui s'appelle « The Comedification of Childhood ». Et en fait, il montre comment, dès 1911, dans des grandes chaînes de magasins de vêtements aux États-Unis, on apprend aux vendeurs, à travers des revues professionnelles, à s'adresser à la mère et à l'enfant, et à intervenir dans la négociation entre la mère et l'enfant, sans infantiliser l'enfant, sans créer trop de conflits avec la mère, et en essayant de bien mettre en lumière les désirs de l'enfant, ses envies vestimentaires, à tel point que le merchandising dans ces grands magasins est complètement revu, puisqu'en fait, on met la layette tout au fond, hein, et quand on sort de l'ascenseur, il faut traverser tout le rayon avec tous les âges, les habits différents, pour justement éduquer l'enfant et solliciter son côté aspirationnel, c'est-à-dire qu'il prenne bien conscience des effets de mode, des différents types d'habits selon les âges, etc. Et on a la layette qu'à la fin, c'est-à-dire que la maman, pour aller acheter quelque chose pour son bébé, emmène ses autres enfants, traverse tout le rayon jusqu'au fond. Donc tout ça, c'est des techniques très travaillées depuis toujours, et ça n'a rien de très nouveau. Donc là, vous voyez aussi une vitrine de confiseurs. Là, on peut remonter au XVIe siècle, hein, XVIIe siècle, puisque Michel Manson l'a très bien fait, donc en montrant que les confiseurs, dans la façon dont ils décoraient leurs vitrines, il y avait une grande partie qui était, c'était bien sûr pour montrer leur capacité à faire des tas de choses intéressantes avec le sucre, mais c'était aussi évidemment pour attirer les enfants. Alors, je vais passer très vite parce que vous connaissez tout ça très bien. Émile Zola, Au bonheur des dames, là aussi, la manière de prendre en compte l'enfant pour fidéliser la mère avec un certain nombre déjà de cadeaux faits à l'enfant. Et la chocolaterie Poulain, très rapidement aussi, qui pour moi, enfin pour l'instant, est l'entreprise qui a réellement inventé le marketing, on pourrait dire, plurimédiat de l'enfant. Puisque cette chocolaterie, donc, qui a été fondée en 1848, a eu un discours très citoyen, très responsable, puisque le chocolat, vous savez, jusque-là, était plutôt un médicament vendu en pharmacie. Et tout le travail de Victor Auguste Poulain, ça a été de faire en sorte que cet aliment extrêmement riche, extrêmement nourrissant, soit une collation finalement imposée, entre guillemets, à l'école, ou en tout cas diffusée à travers l'école, pour aider des enfants qui ne mangeaient pas toujours à leur faim, à partir du moment où l'école est devenue obligatoire, être bien nourris à l'école. Donc on voit qu'il passe par l'autorité, la figure du maître avec son autorité, donc c'est une démarche de prescription de ce nouveau produit, et puis il va accompagner le maître finalement dans beaucoup de ses activités, donc ils inventent des concours de dictée, des concours pédagogiques, et ils inventent surtout, ils préfigurent l'album Panini, on pourrait dire, puisqu'en fait ils inventent un cahier de leçons de choses avec une imprimerie dans les usines qui au début des années 1900 occupait plus de 200 personnes, puisqu'il créait toutes les images qui étaient glissées dans les tablettes de chocolat et qui ensuite étaient servaient à illustrer les leçons de choses du maître. Donc ils avaient des graveurs, ils avaient des dessinateurs, etc. Et donc dès 1879, ils associent à la tablette des images de façon à susciter un effet de collection, mais aussi en lien avec l'autorité du maître d'école. Donc c'est quand même assez bien pensé, assez complexe. Et donc ils produisent des chromos avec la chromolithographie, et ils ne produisent pas quelques chromos. voyez, en 1900, il y a bien 350 000 chromos, j'ai relu le chiffre plusieurs fois, qui sortent chaque jour, qui sont imprimés chaque jour et qui sont donc glissés dans les tablettes. Donc on est déjà sur une sorte de marketing de masse quand même pour l'époque. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir que ça date du milieu du 19e siècle. Alors une autre revue intéressante aux États-Unis, c'est The Progressive Grocer. On a eu la chance de pouvoir accéder à cette revue par l'intermédiaire de Franck Cauchois, qui a pu donc avoir les droits de reproduction de certains aspects de cette revue. C'est une revue destinée aux épiciers américains, et il l'a étudiée de 1922 à 1977, en gros. Et qu'est-ce que l'on voit ? Ben, on voit très vite que les épiciers américains ont un problème, c'est que les marques enfants tournent beaucoup moins vite sur les rayonnages de leur épicerie que des marques familiales. Donc il faut soutenir ces marques, il faut susciter un intérêt. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein. On est obligé pour les marques enfants dans les rayons alimentaires de soutenir, de créer l'événement, sinon ça ne, y a pas de rotation assez rapide. Et donc on voit ici un premier plus produit, Premium, qui est proposé. Donc c'est un petit personnage d'un spectacle de marionnettes qui a été diffusé dans plus de 8000 salles aux États-Unis en 1935. Et puis vous connaissez toutes les aventures de Shirley Temple, qui a vraiment été instrumentalisé comme enfant pour vendre des tas de produits aux États-Unis. Donc là aussi, on n'est pas à une petite échelle. On est vraiment sur une communication d'envergure avec des marques qui veulent s'implanter, qui veulent créer une proximité avec l'enfant et qui, on peut dire, y ont très bien réussi. Alors, en parallèle de ces actions marchandes, on voit bien que ces actions marchandes, elles s'appuient quand même aussi sur des avancées scientifiques. Donc ça doit aussi nous interroger un petit peu par rapport au numérique. Donc, grosses avancées évidemment sur les théories pédagogiques, avancées de l'hygiène, je vais aller très vite, de la psychologie, et en particulier en France, apparition des professionnels de l'enfance, comme ça a été très bien étudié aussi par Gilles Brougère en particulier, avec son analyse de l'émergence de l'école maternelle et ses professionnels de la jeune enfance. Donc aux États-Unis, Daniel Thomas Cook montre qu'on invente la figure du toddler. Le toddler, c'est cet enfant qui rampe et qui finalement quitte les genoux de sa mère pour commencer à explorer le monde à sa façon, en fonction de ses désirs. Et donc, à partir du moment où il peut exprimer une volonté propre, finalement, ça préfigure le fait que, oui, il peut peut-être s'intéresser par lui-même à des choses, décider par lui-même un certain nombre de choses. Puis évidemment, j'ai juste rappelé cette phrase qui est quand même très importante, de Françoise Dolto, et qui va avoir un impact aussi, qui va être évidemment réinterprété, réutilisé par le monde marchand, qui suit de très près toutes ces évolutions plutôt scientifiques. Alors, en ce qui concerne l'enfant consommateur, il faut quand même savoir que c'est effectivement, comme toujours en gestion, ce sont des praticiens qui ont fait le secteur ou qui ont mis en pratique des connaissances. Et donc là, il y a James McNeill, qui est très connu évidemment, qui est un consultant, qui a ouvert complètement le champ du marketing enfant et qui a essayé de commencer à poser les bases théoriques de ce que peut être ce champ. Et donc, pour lui, les marchés de l'enfant sont triples. Pourquoi il faut s'y intéresser ? Parce qu'ils ont justement une triple envergure. Ce sont des marchés sur lesquels l'enfant dispose d'argent de poche. Donc il peut décider, il est consommateur de fait, puisqu'il a de l'argent de poche, qu'il peut dépenser de façon discrétionnaire. Ensuite, il a montré qu'il y avait un marché secondaire, c'est-à-dire la capacité d'influence de l'enfant sur sa cellule familiale pour intervenir sur un grand nombre de produits. Et puis c'est surtout le consommateur de demain. Donc finalement, en le faisant participer au marché ou à l'activité marchande, on va aussi lui inculquer un certain nombre peut-être de réflexes de consommation. Mais ce qui est très intéressant, si on lit bien ces travaux, c'est qu'il y a une exigence éthique très forte dans les travaux de James McNeill, et donc c'est toujours accompagné d'une grande préoccupation morale. Justement, l'enfant, il ne faut pas le, lui mentir, il ne faut pas essayer de lui faire prendre des vessies pour des lanternes, parce que très vite il va s'en rendre compte, et très vite il va rejeter les marques d'une façon brutale. Et donc il y a toute une réflexion dans ces travaux qu'on ignore un peu facilement, je trouve, en marketing, qui repose des questions extrêmement importantes sur le plan moral, sur le plan éthique, sur la relation de la marque à l'enfant. Et c'est curieux, c'est pas trop cité dans les travaux en marketing, on retient surtout que c'est un marché juteux, et on s'arrête là pour pas trop approfondir. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que justement ça demande peut-être de réfléchir au type de relation que l'on veut établir avec l'enfant, et aussi évidemment au type de responsabilité que l'on a par rapport à lui. Donc il y a toute une série de travaux dans les années 70 qui se sont développés. Là aussi, c'est des cabinets de conseil aux États-Unis, hein, principalement, et c'est surtout cette idée qu'il faut entendre la voix de l'enfant. C'est-à-dire que si on veut arriver à établir une relation satisfaisante avec l'enfant, bah, il faut être à son écoute. Donc il faut inventer de nouvelles méthodologies de recherche pour être sûr que l'on comprend bien ce que l'enfant, d'abord comprendre la relation marchande, puisqu'il souhaite aussi comme type peut-être de service, de produit. Donc il y a une sorte de renversement méthodologique qui est très bien travaillé, qui a donné lieu pour certains disent que les smileys en particulier ont été inventés justement pour essayer d'aider les enfants à exprimer des nuances qu'ils n'arrivent pas à exprimer parce qu'ils manquent de vocabulaire, ils manquent d'un certain nombre de concepts, hein, pour expliquer ce qu'ils ressentent. Et bien sûr, l'idée derrière tout ça, c'est que l'enfant est un vecteur d'innovation dans le foyer. L'enfant a introduit les céréales, on a bien vu, hein, merci Shirley Temple, hein, on crée ce lien affectif. Voilà, on va transformer les habitudes alimentaires des parents à travers l'enfant. L'enfant a introduit les jeux vidéo à une époque aussi, dans les familles françaises. Bon voilà, donc il ne faut jamais oublier que l'enfant est vu par le monde marchand comme justement celui qui peut introduire, parce qu'il a une disposition naturelle qui est la curiosité, qui est l'envie d'apprendre, et donc il peut servir de vecteur, hein, d'introduction de formes d'innovation dans la cellule familiale. Bon, ben, ça marche toujours très bien, hein, on travaille avec tous ces consultants, donc, et tous les autres, donc qu'on soit médiamétrique, qu'on soit... Voilà, on construit en grande partie la figure de l'enfant, on construit aussi par des protocoles de recherche, bah, effectivement, sa légitimité à apporter des informations aux décideurs marketing, au monde marchand, et tout ça, ça implique quand même une certaine forme de responsabilité. Alors, nous, comment on traite la question, ben, on s'est mis plutôt dans un cadre vygotskien, ça peut paraître un peu étonnant, mais en fait, on montre bien que les médiateurs marketing sont des outils culturels comme le reste, comme le langage, comme c'est un autre type de langage, un langage marchand, mais qui fait partie de la culture contemporaine de l'enfance. Et donc, que fait ce langage marchand? Vous savez que dans une perspective un peu marxienne, il faut s'interroger sur... ce que transforme le système pour savoir vraiment de quoi il est fait et comment il opère. Ben, si on réfléchit un peu à ça, ben, les médiateurs marketing, mais pas que eux, hein, avec d'autres médiateurs, les parents, le système éducatif, avec tout un ensemble d'autres acteurs, tous ces médiateurs culturels, ben, en fait, ils transforment la participation de l'enfant, puisqu'à certains moments, l'enfant va être plutôt dans une périphérie de la relation marchande ou du lien marchand, il va observer ce qui se passe, il va poser des questions, etc. Et puis progressivement, vous savez quand même que l'enfant n'a pas besoin d'aller au supermarché pour être complètement dans le monde marchand. Il suffit qu'il reste chez soi, puis il regarde tous les produits que les parents rapportent du supermarché, il y a tout, hein. Il y a les logos, il y a les packaging, et pourtant il n'est absolument jamais allé dans un supermarché. Donc il n'a pas besoin vraiment d'être en contact direct avec le monde marchand pour être déjà complètement immergé dans le monde marchand. Donc là, il est participant périphérique, on va dire. Et puis progressivement, toute la subtilité du marketing depuis toujours, ça va être justement à travers cette médiation culturelle, de montrer que l'enfant, oui, peut jouer un rôle central dans la consommation. C'est-à-dire qu'il peut être pleinement décideur d'un certain nombre de pratiques d'achat ou d'utilisation, hein, liées à des produits qu'il connaît bien. Et en particulier, ben, on dit en marketing que l'enfant est un expert des catégories de produits dans lesquelles il est fortement impliqué. Alors c'est pour ça que c'est peut-être pas la peine de demander à un enfant de 5-6 ans combien coûte la plaquette de beurre, parce que enfin, c'est pas trop son domaine de pratique marchande, on va dire. Mais en revanche, c'est un expert des bonbons. Ça, il va vous expliquer tous les types de bonbons qu'il y a, les prix, il les connaît très bien, parce que le peu d'argent de poche qu'il a, là, il calcule bien, etc. Bon. Donc, ils sont experts sur un certain nombre de produits dans lesquels ils sont fortement impliqués, parce que justement, ces produits jouent un rôle clé dans leurs sociabilités enfantines, à l'école, par rapport à la fratrie, par rapport à d'autres enjeux qu'il faut comprendre pour bien les accompagner dans l'usage qu'ils font de ces produits. Voilà, nous, comment on approche cette question. Et donc, pour nous, le marketing, les techniques marketing sont des médiateurs culturels au sens de Vygotsky. Hein. C'est des systèmes de signes, des instruments culturels qui vont créer du sens chez l'enfant par rapport aux produits qu'on lui présente. Alors, quelques exemples de techniques marchandes. Vous savez que le caddie a été inventé dans les années 40, et ça, Franck Cauchois le montre très bien aussi dans son analyse du libre-service. Ben, l'invention géniale, ça a été de faire le petit caddie. Alors souvent, il y a des petits drapeaux, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, sauf qu'au Canada, c'est très clair. Et donc, c'est une collègue du Canada qui m'a envoyé cette photo. Hein. C'est futur client à l'entraînement, on ne peut pas mieux faire que de lui faire incorporer toute la gestuelle du libre-service en lui proposant un petit caddie. Comme ça, il est dans la position parfaite d'un consommateur et il imite, c'est l'apprentissage vicarien, il imite par observation tout ce qui se passe. Bon, après, ça ne se passe pas forcément aussi bien que ça à la caisse, mais en tout cas, voilà, on a trouvé le dispositif socio-technique pour qu'il incorpore toute cette gestuelle du libre-service. Alors, voilà. Alors, un autre exemple, dans les années 60, puisque ça, c'est Topoline en 1960, ben là, on a typiquement une très belle publicité qui montre la participation centrale de l'enfant. Alors, vous savez que les glaces en Italie, c'est très particulier, puisqu'en Italie, la glace est un produit sain. Depuis toujours, la glace est un produit qui est bien vu pour les enfants. Pas le cas partout, hein, je pense pas, mais en tout cas en Italie, c'est culturel. Et donc un enfant peut tout à fait, dès les années 60, affirmer « ben voilà, la glace, c'est mon affaire, donc ben, c'est moi qui décide, hein. Io voglio ». Il n'y a pas de parents, il y a tout, et puis c'est bien écrit, un gelato dei piccoli. Voilà, l'enfant peut parfaitement décider tout seul de faire... Enfin, ce type d'achat, il est parfaitement légitime, c'est un produit qui est fait pour lui, donc il n'y a aucun problème. On est quand même en 1960. Donc, alors, ça va conduire toutes ces réflexions à d'autres des formes d'invention du marketing, et en particulier ce qu'on appelle l'hypersegmentation marketing. C'est-à-dire, nous, depuis qu'on travaille sur cette question, on a vu émerger donc, une nouvelle cible, la cible des twins. Alors, je rappelle, les twins, c'est quoi? C'est « between ». Child and adolescent. D'accord ? C'est donc twin, ils sont between, et justement ils sont intéressants parce qu'ils ont de l'argent de poche, ils sont encore un peu contrôlés par les parents mais pas trop, donc ils commencent à chercher à s'autonomiser, et donc c'est le moment d'essayer de justement leur faire découvrir des nouvelles marques. C'est un peu comme la mère primipare, vous savez, c'est au moment où justement il y a un changement important qu'il faut essayer d'introduire de nouvelles marques, les petites mallettes, hein, je vous rappelle, dans les cliniques et tout ça. Là, c'est un peu la même chose, c'est un moment où ils aspirent à une forme plus grande d'autonomie, donc c'est le moment de devenir des marques amies, des twins, parce qu'elles vont ensuite rentrer dans leur pratique, leur sociabilité de préadolescent, etc. Et donc, je vous invite surtout à lire le sous-titre, qui est quand même extrêmement intéressant, hein, « Capturing your share of the multi-billion dollar twin market ». Donc, le programme est clair, au moins, les choses sont posées clairement. Ce serait quand même dommage qu'en tant qu'entreprise, vous passiez à côté de cet Eldorado. Hein. C'est facile, entre guillemets, hein. Il est bien fait le livre, hein, quand même, je ne veux pas être trop... Il y a des vraies réflexions, ils utilisent Piaget, ils utilisent tout un système aussi de connaissances que le marketing détourne, mais utilise à son profit pour justifier et légitimer le fait qu'on peut tout à fait s'adresser à cette cible finalement assez riche et sur laquelle il y a de bonnes affaires à faire. Alors, là, je suis peut-être moins pertinente sur cette partie-là, mais je pense qu'il faut y réfléchir aussi sur le numérique. C'est effectivement tous ces imaginaires qui sont liés au numérique, qui ont été très très bien analysés par Stephen Klein, qui est un professeur de la Simon Fraser University, directeur de la School of Communications et du Media Lab pendant des années, qui est venu chez nous en visiting plusieurs années de suite, et donc qui, lui, analyse de façon... déconstruit de façon assez critique tous les grands discours de Negroponte, du MIT, etc., des autoroutes de l'information. Enfin, voilà, tout cet imaginaire, tous ces mythes qui se sont construits à l'origine même de l'éclosion du numérique. Et il a publié un livre très intéressant en 2003 sur Digital Play, donc comment toute cette mythologie contemporaine, hein, sur ce que le numérique va apporter, et ben, transformer aussi un certain nombre de visions de la place du jeu, de ce que c'est jouer dans la vie d'un enfant, etc. Alors, je rappellerai juste trois tendances fondamentales. La centration sur l'enfant qu'a très bien analysé Laurence Gavarini, la parole de l'enfant. Moi, j'avais assisté à une conférence sur la criminologie, donc science du 19e siècle, et j'avais retenu une chose quand même clé dans cette conférence, c'est qu'à l'époque, certains types d'acteurs sociaux ne pouvaient pas témoigner devant les tribunaux, et donc il y avait effectivement les femmes de mauvaise vie, les clochards, mais aussi les enfants. Donc d'accord, 19e siècle, renversement total, avec, on ne va pas recommander ça, mais sur le procès d'Outreau, où la parole de l'enfant est sacralisée, et finalement, on va renverser totalement le système de valeurs. Je crois que c'était, pour plein de raisons très complexes, hein, que je ne peux pas, évidemment, développer ici, mais c'est quand même assez, assez surprenant. Et puis, bien sûr, l'enfant comme condition sociale du bonheur adulte, donc ça interroge aussi. Hein. La technique médicale progresse, il y a la gestation pour autrui, il y a les usines à bébés en Inde et partout, en Ukraine et tout, qui se développent. Donc aujourd'hui, on peut acheter un enfant sans trop, ça ne coûte pas très cher, hein, ça coûte 3 000 euros, je crois. Donc ça recrée une autre relation à l'enfant quand même, et puis cette sorte de droit à l'enfant, qui est quand même une revendication politique d'un certain nombre de groupes dans la société contemporaine, qui doit aussi nous interroger, hein, sur la place que l'on fait à l'enfant dans la société contemporaine. Et puis, plus fondamentalement, il se joue une redéfinition subreptice. Alors, on peut écrire tout un livre là-dessus, bien sûr. Donc, moi, je le fais en 4 lignes. Très rapidement, quel est le statut social de l'enfance dans la société aujourd'hui ? On voit simplement, en remontant aux années 50, nous, on a eu la chance de faire une recherche, hein, sur le secrétariat du Père Noël pour la Poste, donc depuis 1962, depuis sa création jusqu'en 2012. Et en fait, on voit très bien que dans les premières façons dont le Père Noël s'adresse aux enfants et dans la façon dont l'enfant est mis en lien avec un imaginaire, il y a toujours une figure médiatrice adulte. D'accord ? Donc le facteur, par exemple, il est très malin, le facteur, parce que lui, il sait où habite le Père Noël. Donc il est capable d'aller remettre la lettre de l'enfant au Père Noël. Donc l'enfant peut faire confiance à l'adulte, peut faire confiance au facteur, puisque effectivement le facteur sait où habite le Père Noël, le trouve et rapporte la réponse du Père Noël à l'enfant. D'accord ? Donc on est dans un mode de socialisation verticale. Les parents ont un rôle très important dans cette période-là. Puis ce qui est intéressant, c'est de sentir progressivement comment les choses évoluent. Et en particulier sous la pression ou sous l'inventivité, je ne sais pas, des médias de masse, on va redéfinir l'enfance d'une autre façon, c'est-à-dire plutôt être enfant, c'est aujourd'hui partager une culture de paix, être socialisé avec sa génération, voilà, et donc inventer des cultures enfantines que les adultes ne comprennent pas toujours. Hein. Je vous rappelle quand même le problème des Pokémon, les premiers démarrages difficiles des Pokémon, pour les parents en tout cas, qui ne comprenaient pas du tout la logique de ce jeu et ce que ça pouvait apporter aux enfants. Donc là, il y a quelque chose qui se joue d'extrêmement important et qui, dans le numérique, est fondamental, à mon avis. Alors, je vais passer très vite pour pas prendre trop de temps. Là, juste pour vous rappeler quand même que la Convention internationale des droits de l'enfant considère que l'enfant est un sujet de droit, au sens de droit inaliénable, etc., universel. Alain Renaud, qui est un philosophe qui a travaillé sur la libération de l'enfant, montre que c'est une aporie philosophique. Il le montre brillamment. Et que donc, c'est un enfant qui est sujet de droit, mais quand même qui n'a pas tous les droits. Donc ça devient compliqué, il ne peut quand même pas se marier, il ne peut quand même pas voter. Il peut... Donc voilà, Stigler, que vous avez invité ici, a montré aussi que ça pose un vrai problème, c'est-à-dire qu'on On ne peut plus vraiment penser la relation adulte-enfant à partir du moment où on infantilise l'adulte et on adultifie l'enfant, qui peut être même à 13 ans condamné, hein, voilà, par le système judiciaire. Donc ça commence à rendre les choses très très compliquées pour penser la responsabilité de l'adulte par rapport à l'enfant. Et je vous signalais juste que la Bolivie a quand même légalisé le travail des enfants en juillet 2014, et que donc c'est... D'un côté, elle a signé la Convention des droits de l'enfant, puis de l'autre côté, elle l'a quand même, elle la nie par cette signature. Enfin, on va pas. Alors, juste pour conclure rapidement, ouais, l'enfant, c'est aussi un être en devenir, ce que nous ont bien rappelé tous les chercheurs du nord de l'Europe, qui n'ont pas tout à fait la même vision de l'enfance que nous. Mais ça va poser quand même un gros problème aux parents. Hein. Les parents, ils n'apprennent plus leur rôle de parents, souvent simplement dans leur cercle de socialisation primaire, puisque les familles se transforment énormément. Et puis donc, on va avoir un poids de plus en plus important des médias dans des transmissions de normes sociales et surtout de normes parentales. Là aussi, dans le numérique, je crois que c'est assez clair. Et donc, la difficulté aujourd'hui, vous savez, vous connaissez ce livre, La fatigue d'être soi, mais aujourd'hui, c'est un peu la fatigue d'être parent, quoi. C'est quand même très compliqué d'être parent. On ne sait pas. Alors, on va tout sur Magic Maman, on lit toutes les revues parents, machin, pour essayer de savoir quel genre de parent il faut être aujourd'hui, c'est quoi être un parent moderne, c'est quoi être un... Donc, en fait, et puis, il y a toutes ces critiques sur la démission des parents. Ça avait été évoqué, qu'ils ne s'impliquent plus à l'école, qu'ils laissent finalement aux spécialistes de l'enfance prendre un certain nombre de décisions. Alors moi j'appelle ça plutôt, ça fait surgir des anxiétés parentales. Et beaucoup de marchés de l'enfance pour moi sont des marchés de l'anxiété parentale. Ce que l'on vend, la promesse que l'on fait aux parents, c'est de soulager ce mal-être aujourd'hui parental. Donc par exemple, on va avoir Baby First, je vous rappelle l'aventure Baby First, une surstimulation cognitive de l'enfant, ça va être la promesse, mais qui répond à une anxiété. C'est-à-dire, si vous ne faites pas tout à court terme, dès le plus jeune âge, pour que votre enfant devienne un génie et des synapses bien structurées dans son cerveau, vous ratez quelque chose. Les crantages en termes d'âge qui sont très évolutifs. Donc c'est le « kids getting older, younger ». Donc on va faire en sorte de changer les indications d'âge sur les packagings pour que les parents soient fiers et qu'ils se disent « Ah ben mon enfant qui a que 3 ans, il sait faire un truc qui est plutôt réservé aux enfants de 5 ans ». Et puis la peur de la désocialisation de l'enfant, puisqu'on est dans cette culture de père. Être enfant, c'est vivre ici et maintenant sa culture de père. Et donc c'est tout le problème de Facebook. Vous savez que Mark Zuckerberg... plaide pour qu'on ouvre Facebook au moins de 13 ans, parce qu'en Inde, il se fait attaquer, c'est des exemples, mais en Allemagne aussi, les tribunaux indiens lui demandent de fermer les comptes d'enfants indiens de moins de 13 ans. Donc il dit, ben oui, j'en ferme 20 000 par jour, mais le problème, c'est qu'ils s'en recréent bien plus chaque jour, mais ceux qui les créent, c'est les parents. Donc là, il y a un petit problème, parce que les parents, ils ont tellement peur que leur enfant soit désocialisé, que ce sont les parents qui créent le compte au profit de leur enfant, on va dire. Donc il y a quand même des effets un peu pervers, on va dire, dans cette façon de travailler la relation avec l'enfant. Alors juste pour finir, deux petites planches. Alors, qui est cet enfant consommateur? Vous voyez bien que toute ma démarche, ça va être surtout de ne pas répondre à cette question, mais de montrer tous les enjeux. Donc, est-ce que c'est un consommateur empowered, comme la Progressive Era et tout ça, essayer de construire ce consommateur compétent avec des luttes très importantes? Donc, il est pleinement compétent et capable de décider. Mais attention, petite restriction, uniquement sur les catégories de produits dans lesquelles il est fortement impliqué, donc on ne peut pas généraliser. Hein. Est-ce qu'il est savvy, au sens de maîtrise suffisamment bien les technologies, donc il fait preuve d'une technophilie prudente, hein, il saurait mieux que les parents comment utiliser Facebook, comment utiliser YouTube, etc. Bon. Alors c'est un digital native qui est paré de toutes les qualités. Il sait mieux faire que ses parents, il sait mieux faire que peut-être même ses profs à l'école. Bon. Est-ce que c'est un consommateur citoyen? C'est-à-dire qu'il est encore plus compétent que les adultes pour redonner son vrai sens à la consommation. C'est-à-dire, lui, il va justement prôner des valeurs de partage, de solidarité, etc. Il va inventer cette nouvelle consommation participative de demain, etc. Alors, où est-ce que c'est l'autre figure que l'on voit évidemment apparaître aussi? Un consommateur vulnérable, souvent incompétent pour décider seul, et il est incompétent parce qu'il manque il lui manque des connaissances. Donc il est relativement irresponsable parce qu'il ne maîtrise pas les conséquences de ses actes. Je vous rappelle que l'INC, avec qui on est partenaire aussi, nous a expliqué qu'en Allemagne, il y a un enfant de 4 ans qui s'était quand même acheté une Porsche sur un site de commerce en ligne. Bon, voilà, donc ça pose quand même des petits problèmes. Il y a quelques failles parfois dans le système. Est-ce que c'est un consommateur captif? C'est-à-dire qu'il se fait happer sans s'en rendre compte par des dispositifs sociotechniques. Merci Facebook, merci là tous les réseaux sociaux numériques, on les connaît bien. Hein. Et donc c'est pourquoi, parce qu'on joue sur le côté aspirationnel. Il veut grandir, donc il veut faire comme les autres, comme les adultes, et parfois il n'est pas forcément prêt, et donc il génère beaucoup de data sans s'en rendre compte et sans comprendre forcément les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Et est-ce que c'est un consommateur total? Donc là, je n'ai pas trouvé d'autres mots hein, pour essayer d'exprimer ce que je voulais dire, mais un consommateur total, c'est-à-dire qu'on peut tout consommer. C'est-à-dire, voilà, donc il est prêt. Hein, se faire couper une jambe pour se mettre peut-être une prothèse, vous savez, je ne sais pas comment on appelle ça, pour être plus performant physiquement. Est-ce qu'il est prêt à tout faire, à justement recourir à la gestation pour autrui, etc. Est-ce que ça va devenir un libertarien ou effectivement, donc, ben, ce qu'il va porter comme valeur, ce n'est pas tout à fait les mêmes qu'avant. Hein, c'est pas, donc, c'est plutôt des valeurs d'inégalité sociale. Je peux me le payer, donc je le fais. Ceux qui ne peuvent pas se le payer, ben, tant pis pour eux. Etc., etc. Donc voilà, donc juste pour conclure, c'est pour vous montrer que la consommation enfantine, ben, c'est un système complexe au sens évidemment d'Edgar Morin, un système ouvert mais complexe, avec plein de sous-systèmes en interaction. Je finirai juste là-dessus. Donc nous, c'est comme ça qu'on travaille, c'est-à-dire que effectivement les marques ou l'économique, si vous voulez, qui est là, ne peut pas fonctionner sans tout le reste, d'accord, sans un système plurimédiatique, qui dans le numérique est fondamental, mais qui est lui-même évolutif en fonction d'innovations technologiques, etc. Un système narratif qui va venir évidemment de très loin, des contes d'enfants, etc., mais qui sont repris par la publicité, hein, qui reprend des structures narratives très très connues des enfants. Un système relationnel qui est cette culture de pair, un système institutionnel, il ne faut pas oublier l'Église. L'Église, on oublie parfois un petit peu, on a tendance à oublier, l'Église, elle dit beaucoup de choses hein, sur l'enfance contemporaine, un système politique, etc. Donc c'est simplement montrer que réfléchir à l'enfant consommateur, ben, c'est rentrer dans ce système dont il faut penser les interactions et la complexité des débats. Parce qu'évidemment, ici, système de valeurs en opposition, gros débat de société sur la place que l'on laisse à l'enfant. Alors, dernier plan juste, voilà. Donc, je ne réponds pas à la question, mais j'essaye d'ouvrir le débat. Donc, c'est un sujet de débat moral, cet enfant consommateur qui réinterroge de façon permanente notre société. C'est évidemment un combat idéologique, c'est pas juste, c'est un combat idéologique, hein, entre la figure d'un enfant indépendant, la figure d'un enfant qui apprend à s'autonomiser au sein d'une relation, et c'est aussi un combat politique et économique entre des industriels soucieux de s'autoréguler, la soft law, hein, et puis l'appel à une régulation, enfin l'État, les États qui sont souvent sollicités par des associations familiales, etc., pour faire de la hard law, donc réguler les pratiques commerciales.
Je ne peux pas, en un clin d'œil, penser à ce facteur qui connaît l'adresse du Père Noël et à ces moteurs de recherche qui savent trouver tout ce que nous souhaitons trouver, même si nous cherchons parfois au hasard, et les enfants aussi. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Ce que je propose, c'est prendre peut-être 2-3 questions dans la salle, il y a des questions dans l'immédiat, et puis après enchaîner pour regagner un petit peu le temps de décaler ce matin, si vous en êtes d'accord.
Alors, je peux lancer une petite... juste pour vous dire, l'enfant travailleur là, que j'ai mis au départ, il réapparaît hein, dans cette image numérique. L'enfant travailleur, comment on va rémunérer la créativité du consommateur? Le crowdsourcing, c'est une pratique qui se développe de plus en plus. Pour l'instant, est-ce que le consommateur est vraiment rémunéré? On ne sait pas trop. Par exemple, dans la gestion des traces scolaires, si on dématérialise tout, nous, on a à Poitiers le LP2I, là, ce lycée où il n'y a plus qu'une tablette. Bon, c'est très bien hein, en termes de lourdeur du cartable. Mais le vrai problème, c'est la gestion des traces. À qui appartiennent les traces? tous les devoirs, tous les documents produits par ses élèves, ils appartiennent à qui? On va les lui rendre, je pense qu'il doit y avoir une réflexion là-dessus, mais en tout cas, donc nous, on s'interroge beaucoup sur, par exemple, l'évolution de la culture matérielle des enfants dans une économie numérique qui est en train de poser une alternative. Soit c'est une économie de l'accès, j'accède à ma ludothèque, vidéothèque, bibliothèque, discothèque, on va dire. Soit c'est une économie du bien numérique. Sauf que juridiquement, ce n'est pas du tout la même chose. Dans le bien numérique, c'est un bien numérique que je possède, que je peux revendre. Le marché de l'occasion. Combien dans le jeu vidéo? 43% actuellement, je crois, du chiffre d'affaires du marché du jeu vidéo. Donc aujourd'hui, on achète un jeu vidéo parce qu'on sait qu'on va pouvoir le revendre. À partir du moment où on n'aura plus qu'accès, on ne va pas le payer le même prix, puisque de toute façon, on ne pourra pas le revendre derrière. Donc ça va quand même, si on va plutôt vers une économie de l'accès. Aujourd'hui, il y a un rapport à la propriété des objets numériques qui est un enjeu majeur pour la culture matérielle de la jeunesse, de l'enfance et de la jeunesse. Quels sont les objets dans cette culture matérielle qui appartiennent à l'enfant, qui sont à lui, dont il peut s'estimer propriétaire, c'est-à-dire il en fait ce qu'il veut, il le donne à sa petite sœur. Là, aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué parce que les médiations marchandes qui sont proposées cassent un peu ce rapport, je pense, à cette culture matérielle qui, jusqu'à présent, a bien été assez claire quand même sur ce qui appartenait à l'enfant. Alors, d'autres questions aussi sur ce marketing mobile? Puisque la Marketing Mobile Association que j'ai contactée, les enfants sont sur tablette et sur smartphone en permanence, sauf que on travaille sur la silver economy. Donc je pense que là il y aurait des choses à faire. Et dernière petite question sur le Dot Kids. Je sais qu'à une époque on avait imaginé créer un internet des enfants avec une extension Dot Kids et que ça n'a jamais été possible. Il y a des gens qui ont poussé dans cette direction là il y a une dizaine d'années. Je trouverais intéressant de peut-être retravailler sur l'histoire de cette tentative qui a avorté pour essayer de comprendre pourquoi finalement un certain nombre d'enjeux marchands ont fait aussi que cette extension de Dotkins n'a pas pu voir le jour. Voilà, déjà.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions et toutes ces invitations à rebondir au fil de la matinée.